Alors, je n'ai pas parlé de la fonction publique, effectivement, qui a mis en place un dispositif un peu différent, puisque, si je me souviens bien, je parle sous contrôle, il n'y a pas de seuil qui a été mis en application. Il y a ce qu'on a appelé les accords de Bercy, parce que ça a été signé au ministère de l'Économie et des Finances, enfin, qui est le siège maintenant de la direction de la fonction publique aussi, et qui prévoit un dispositif un peu particulier. Tu l'as en tête ? Pas du tout. Mais je crois que la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de seuil, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'éviction des syndicats, des petits syndicats, et qu'il y a une règle.
Dans les CPP, si, comme les petits, il n'y va plus.
Ouais. Oui, donc je voulais regarder cet après-midi et puis j'ai totalement oublié ce truc-là. Comme je ne l'avais pas travaillé au départ, les accords de Bercy, je m'en souviens pas bien. Mais il y a un dispositif spécifique, effectivement, qui a été pensé dans la fonction publique, qui a été signé par tous les syndicats, je crois, sauf FO ou tout le monde. Enfin, un truc assez consensuel, en tout cas. Donc, sur des bases différentes du système général, avec... Par contre, ça peut avoir un changement, avec là, par contre, un principe majoritaire pour la signature des accords. C'est-à-dire qu'il faut réunir 50% des suffrages, une alliance réunissant 50% des suffrages pour pouvoir valider un accord. Enfin, vous savez que les accords dans la fonction publique ont toujours un caractère symbolique, puisque c'est de toute façon, en dernier ressort, la puissance publique qui ne contracte pas avec ses agents. Hein, puisqu'ils sont en situation statutaire et réglementaire, comme on dit. Donc la négociation collective n'est pas franchement une vraie négociation au sens juridique habituel. C'est une incitation de l'État à trancher en faveur d'un accord majoritaire. Enfin, ça a un certain poids quand même. Et donc cette règle-là est assez différente du dispositif général. Même si dans le dispositif général que j'évoquais tout à l'heure, les 30% ont vocation à aller vers les 50%. Dans un avenir plus ou moins proche.
Oui, allez-y. Je voudrais l'incidence sur le financement des syndicats avec les nouvelles règles et corollaire immédiat sur la formation professionnelle, la gestion avec les nouveaux conseils de gestion et d'administration des OPCA, compte tenu des règles sur la proportionnalité et les élections professionnelles. Mm-hmm. Vous avez quelques idées déjà sur cette
On va prendre peut-être d'autres questions, puis d'autres, on va. Allez-y. Ouais.
Moi, je voulais savoir. Il n'y a pas eu de seuil de représentativité pour les syndicats patronaux. Le système qui a été mis en place, là, n'est pas valable pour les syndicats patronaux. Il faut savoir ce que
Alors, la première question. Ça va modifier les règles de financement du syndicalisme avec l'introduction d'une règle proportionnelle. Je n'ai pas regardé dans le détail mais à l'UNEDIC, par exemple, il y avait une répartition forfaitaire entre les 5 syndicats reconnus représentatifs. Alors là, avec la fusion de Pôle emploi, la question du financement des syndicats a été tranchée dans un sens qui ne les arrange guère. Mais en tout cas, il y a malgré tout une part qui va être versée aux syndicats, mais à la proportionnelle de ce qu'ils représentent. Bon, ça va faire un trou dans certaines organisations. Il est probable qu'un dispositif du même genre sera mis en place dans les OPCA. Je crois qu'il y a un rapport en cours, une expertise qui a été instruite par Ferracci là-dessus, qui a dû rendre son rapport, je ne sais pas très bien où s'en est cette affaire, mais qui va présider à des changements. Il va y avoir des répercussions dans le financement du syndicalisme. C'est l'évidence. Et ça peut avoir des conséquences sur... Voilà, oui, ça peut avoir... Bon, soyons clairs, la CFTC, par exemple, n'a plus les moyens de faire tourner sa confédération avec les diminutions de rentrée qui vont être la conséquence de ça. Moi, je travaille dans un institut, l'IRES, qui a pour fonction en partie, on a un labo de recherche, mais il y a une partie aussi qui est ce qu'on appelle l'agence d'objectifs, où on finance les études que les syndicats font pour eux-mêmes. C'est une aide indirecte à la recherche économique et sociale des syndicats. Bon, c'est quand même un mode de financement de leurs activités. Mais là, c'est pareil. Il y a des grands trucs forfaitaires. Ça va probablement être modifié. On va passer à une règle un peu plus proportionnelle. Ça va aussi avoir des effets. Et puis, il va falloir sans doute ouvrir le tour de table. Enfin, ça a plein d'effets en chaîne, sur tout ce qui touche, effectivement, après au financement des organisations syndicales. Et là, on touche au nerf de la guerre et la survie d'un certain nombre d'organisations est en cause. Il y a celles qui sont le moins touchées, sont à la fois celles qui ont le plus de surface et celles qui bénéficient aussi de financements beaucoup plus occultes que les financements publics, qui ne sont pas d'une transparence totale, qui sont malgré tout sous l'œil de la Cour des comptes, plus ou moins, enfin en tout cas, le jour où la Cour des comptes veut vraiment s'en mêler, on saura. Il y a aussi d'autres modes de financement qu'on connaît moins. Alors, sur la deuxième question, après on reviendra. Sur la deuxième question, le patronat a échappé à l'examen de sa propre représentativité. Les syndicats de salariés, d'entrée de jeu, ont posé la question. Ça a été placé hors champ. C'est hors discussion. Cela étant, combien de temps le patronat pourra-t-il échapper à la question ? Probablement pas pour l'éternité. L'histoire de l'UIMM a un petit peu chahuté dans le champ patronal. Et surtout, il y a les organisations en périphérie. Je pense à l'UPA, par exemple, l'Union professionnelle de l'artisanat, qui est très demandeur d'une opération vérité sur la représentativité réelle du MEDEF. Pour l'instant, le ministère du Travail, à travers sa direction à la recherche, a lancé un programme d'études sur la représentation du patronat. Il y a 5 équipes de chercheurs, 4 équipes de chercheurs qui ont lancé des chantiers pour aller voir comment ça marche. Alors bon, c'est des chantiers de recherche, hein, c'est pas une expertise, c'est pas un rapport à Das Nobel sur la représentativité patronale, mais il est probable que quand on y verra un petit peu plus clair de ce côté-là, il sera certainement diligenté des choses de ce côté-là. Enfin, sauf si le pouvoir politique décide que c'est hors champ de la discussion. Mais enfin, c'est vrai que le remue-ménage interne au MEDEF incite à se repencher, à étudier un petit peu ce qui se passe dans la partie patronale, qui a été un petit peu ignorée par les sciences sociales depuis une vingtaine d'années. Avant, il y avait une tradition de recherche sur le patronat qui s'est un petit peu asséchée. Autant sur les syndicats de salariés, il recommence à y avoir un intérêt des chercheurs, notamment des jeunes, à travailler sur le syndicalisme de salariés. Et là, on commence à voir émerger des équipes de chercheurs qui vont travailler sur le patronat. À part les historiens qui ont toujours entretenu une fibre de ce côté-là. Le reste, les sociologues, les politistes ont assez peu travaillé, mais là, on recommence. Donc je pense qu'à terme, le patronat échappera difficilement à ça, ne serait-ce que par les tensions internes au patronat. Il y a des gens dans le monde patronal qui ont intérêt à des opérations vérité.
Moi, je voulais savoir, comprendre un peu comment les syndicats qui n'étaient pas reconnus représentatifs arrivent à s'instaurer pour présenter un employeur, il est d'accord. Ouh, ça, c'est très bien. Quelque chose de politique. Mais comment est-ce que Sud ou le CNT n'est jamais présenté dans les... Ils peuvent pas présenter une liste. Enfin, ils ne veulent pas. Mais enfin, c'est surtout par rapport à Sud. Comment est-ce que Sud a réussi à avoir droit à présenter une liste aux élections?
La CNT ne se pose pas trop la question, parce que, sauf exception, il y en a, elle ne se présente pas aux institutions représentatives du personnel. Hein.
C'est, mais donc, est-ce qu'ils ont déjà demandé, par exemple, je vois dans certains endroits qu'ils ont le droit d'avoir un panneau d'affichage, donc ils ont eu...
Oui, parce qu'ils ont un délégué syndical. Là, ce n'est pas lié à la présentation électorale. Le panneau d'affichage, c'est lié à l'existence d'une section syndicale d'entreprise.
Et donc,
la CNT...
Le CNT est reconnu nationalement de sorte qu'il peut aller dans une entreprise et dire « voilà notre dernier syndicat ».
Non, parce que la CNT n'a jamais été sur la liste, évidemment, elle en était très loin. Hein. Donc, quand, je crois, il y a quelques boîtes, je crois qu'à la FNAC, la CNT est considérée comme représentative, mais au niveau de l'entreprise, voire même au niveau de chaque établissement, je ne sais pas au niveau de l'entreprise FNAC dans son ensemble, enfin du groupe FNAC dans son ensemble, mais là la CNT a une vraie représentativité et je crois qu'elle est reconnue dans l'entreprise.
Mais dans les universités et dans beaucoup d'écoles, enfin, on a vu dans la journée de la JUP, par exemple, il y a un panneau CNT.
Oui, mais la présence dans l'entreprise ne suppose pas forcément la reconnaissance institutionnelle. La CNT n'est pas en demande d'une reconnaissance institutionnelle. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir exister hein, dans l'entreprise.
Et, quel est l'appui qui permet pour le CNT d'avoir le droit d'affichage pour l'entreprise?
Alors, on va retrouver ça en parlant de Sud, de Solidaire, qui a eu ces problèmes-là aussi. Ne vous y trompez pas, l'UNSA aussi n'a pas été partout la bienvenue. Il y a des employeurs qui ont essayé de bloquer l'arrivée de l'UNSA. Ou quand ce n'était pas les employeurs, c'était les autres syndicats déjà en place qui bloquaient l'arrivée des autres. Donc l'UNSA a eu aussi ça. Très simplement, ils sont passés par les tribunaux. Les tribunaux d'instance locaux, c'est-à-dire ils déposaient une liste pour le premier tour. Leur liste était invalidée parce qu'ils n'étaient pas reconnus représentatifs. Alors, ni au plan interprofessionnel, ils n'avaient pas cette reconnaissance a priori, ni au niveau de l'entreprise. Mais ils allaient devant le tribunal et là, ils faisaient valoir, et alors Sud sont devenus des professionnels de ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ça a commencé en 88 au PTT, à l'époque, il y avait une seule, la poste et les télécommunications, où à chaque fois qu'ils voulaient se présenter, ils étaient invalidés et à chaque fois, ils se sont pointés devant le juge. Et à chaque fois, ils ont défendu les mêmes arguments, les mêmes dossiers, et ils ont contribué à faire évoluer la jurisprudence. C'est-à-dire que le juge, il avait quoi à sa disposition? Il avait les 5 critères, dont l'attitude patriotique pendant la guerre. Vous voulez qu'il fasse de ça en 1990. Alors le juge, il enquêtait. Et le juge allait voir ce qu'était la vie syndicale. Et à partir du moment où le syndicat, que ce soit solidaire ou autre, était capable de faire la preuve qu'il avait des adhérents, une activité attestée par des tracts, par des journaux, par une certaine activité d'entreprise, le juge en général lui donnait raison. C'est-à-dire, oui, il peut être considéré comme représentatif dans l'entreprise, même s'il ne l'est pas au niveau supérieur, il est, par son activité, représentatif dans l'entreprise. Et donc, en fait, toute cette jurisprudence, avec d'ailleurs, ont été introduits par la suite aussi, à l'occasion des tentatives du Front National que j'évoquais tout à l'heure, cette idée des valeurs républicaines, du respect des valeurs républicaines. Donc, progressivement, la jurisprudence a intégré des critères qui ont permis à Sud de s'implanter, mais à chaque fois, il devait en passer par une étape juridique. Je connais très bien le gars qui a Solidaire et le grand spécialiste de ça, il s'appelle Thierry Renard, il vient des PTT, et c'est lui qui, au départ, il est libertaire de sensibilité, et c'est un juriste du travail remarquable à qui l'administration des PTT téléphonait quand elle avait un problème d'interprétation du droit, parce que lui, il était bon. C'est un type assez extraordinaire, d'ailleurs. Et du coup, c'est devenu un des grands juristes de la place de Paris en matière de droit syndical. D'ailleurs, son savoir-faire acquis a servi à beaucoup de syndicats sud dans d'autres domaines, où ça a été mutualisé dans Solidaire. Et donc, ça a été une bataille juridique. L'UNSA a mené la même. Alors, là, sur le cas d'espèce de la CNT, je ne sais pas exactement, mais pour faire reconnaître sa capacité à avoir un délégué syndical dans une entreprise, elle a pu passer par la même voie, c'est-à-dire la reconnaissance juridique du fait qu'elle existait, qu'elle avait une activité, et qu'à ce titre-là, elle pouvait être considérée comme représentative. En tout cas, ça s'est passé comme ça, pour Solidaire et pour l'UNSA. Alors maintenant, avec le nouveau dispositif, ils n'ont plus à s'emmerder avec ça. Ils partent à égalité avec tout le monde. Et s'ils font plus de 10%, c'est réglé. Personne ne va aller leur chercher des histoires. Ils seront reconnus représentatifs.
Vous ne l'avez pas précisé, donc il n'y a plus de deuxième tour, en fait. On n'a plus à attendre le deuxième tour.
Oui, sauf les non-syndiqués. Il faut quand même relever d'organisation syndicale.
C'est-à-dire que si sa liste était refusée au premier tour, et s'il représentait une liste au deuxième tour, et c'était élu, c'était la preuve pour les élections suivantes.
Oui, bien sûr. Oui, absolument, oui.
Mais pour le CNT, il n'y a pas cette possibilité puisqu'il ne présente pas de candidat.
La CNT ne se présente pas aux élections, donc c'est difficile de juger là-dessus. Elle avait ce recours par l'activité, l'intensité de son activité. Mais très souvent, le problème pour Sud, c'est que comme Sud s'est développé essentiellement dans les administrations publiques, parapubliques, ou les entreprises qui étaient avant des entreprises nationales, il y avait rarement du deuxième tour. En général, c'est plié au premier tour. Donc il y avait un vrai enjeu, parce qu'il y a toujours des syndicats, et en plus pour lesquels les gens se déplacent, vont voter. Donc il y avait un enjeu pour Sud à être présent au premier tour, parce que sinon, c'était ne pas être présent du tout. Il y avait très très peu de second tour. Donc c'est pour ça qu'ils ont mené cette bataille qui a été victorieuse la plupart des cas, mais bon, qui était un petit peu épuisante pour eux et qui est maintenant réglée par les nouveaux critères.
Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la situation actuelle. Et donc, avec le constat que nous faisons, les syndicats, etc. Le Code du travail qui est très malade et qui risque de disparaître complètement, vu la non-représentativité des syndicats avec les 8% de syndiqués, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus rien. Et donc le patronat, par contre, est très fort. Alors, les rapports de force, il faut donc les recréer pour refaire des face au patronat. Eh bien, il me semble, a priori, qu'il faut que les syndicats changent fondamentalement. Si, et ça, les syndicats, moi je pense, ce sont les travailleurs. Par exemple, on voit les structures, je parle pour les travailleurs, mais les syndicats, jamais ils ne parlent du réchauffement climatique. Et pourtant, c'est intimement lié. Le changement climatique, c'est un problème de système économique. Le code du travail qui part en morceaux, les responsables, c'est pareil. C'est-à-dire, ce sont les IFI, c'est le MEDEF, etc., etc. L'adversaire est le même et les responsables sont les mêmes. Alors moi, a priori, il me semble que les syndicats doivent changer fondamentalement. C'est donc là, je dirais, le boulot des salariés, c'est-à-dire de nous tous. Mais aussi avec des alliances. Parce que les travailleurs seuls ne peuvent rien faire. Mais c'est par exemple avec les paysans, avec les intellectuels, avec le mouvement intermondialiste, avec l'ensemble des associations. Toutes les associations, si par exemple, qui luttent contre la faim, beaucoup d'entre elles sont des associations, par exemple, catholiques, religieuses, etc. Mais que tout le monde se regroupe ensemble. Sans quoi, dans les mois qui viennent, eh bien, on ne va pas se marrer. Déjà pour les millions de Français, je parle pour la France, d'ailleurs, on ne peut rien faire, nous. France, seule. Il faut voir aussi au plan continental, au plan européen.
Je pense qu'on peut, souscrire tout à fait à, à ce grand programme.
Non, ce n'est pas ce grand programme.
Oui.
Les syndicats américains ont déjà fait une pub pour demander qu'il y ait des subventions qu'aillent aux éoliennes. Ça permettrait de relancer directement l'industrie américaine de l'acier. C'était, je
ne
sais pas si vous avez pu passer ça.
Mmh,
oui, mais
Sarkozy aussi, quand c'est quand j'ai ça.
Non, mais dans le sens, c'est qu'ils sont positionnés là-dessus.
C'est-à-dire, bien sûr, ils vont retomber sur leur salle, comme ils sont toujours faits jusqu'à
maintenant.
Mais là, ils nous emmènent dans une situation dont on a vraiment mal à s'imaginer. Si nous ne réagissons pas.
Bien.
Oui, c'est ça.
Allez-y.
La dernière conférence que j'ai faite, c'était sur le syndicalisme européen. Ça m'avait intéressé. C'est la représentativité, effectivement, dans le syndicalisme européen, dans la fabrication. Comment ça va se passer aussi? Parce que ce sera la fonction plus des salariés, les militants qui veulent. Chaque confédération ou chaque pays qui envoie bien posé à un délégué. Et donc, ça va être aussi le problème de la représentativité. Donc,
oui, enfin, au niveau européen, il n'y a pas trop de questions qui se posent parce que la CES est la seule organisation. Elle regroupe tout le monde. Donc, si vous voulez, il n'y a jamais de questions sur sa représentativité.
Non, si, parce que les syndicats, je veux dire,
Oui, c'est une représentation de second niveau, si vous voulez. Ça, on l'appelle Confédération européenne, mais je crois que je l'ai dit un peu la dernière fois. C'est un petit peu un abus de langage, quoi. C'est une association de confédérations. C'est pas véritablement elle-même une confédération. C'est un regroupement de confédérations. Donc, la question de sa représentativité, elle se pose dans des termes très différents des syndicats sur l'espace national. C'est plutôt quelle représentation elle assure des travailleurs d'Europe, la vraie question.